Bonjour, shalom, assalam alaikum, ndi namikata, nous sommes le lundi 3 avril 2023, il sont 11h et nous vous saluons, vous toutes et vous tous qui êtes en place pour écouter le club La Presse sur Canal FM Lomé ici, mais également sur Radio Lumière à Neho, Radio La Paix, la voix des plateaux à Takpamé, Radio Sama FM à Baga, côté de Niamtougou, Radio Centrale FM à Sokoré au centre du pays, Radio Daoula Pays Bassa, Radio Courtoisie à Dapon, mais également dans le monde entier, vous nous écoutez par le biais des canaux et autres médias numériques. Nous vous saluons, tout comme nous remercions les techniciens qui réalisent l'émission, Victor Gwekoku Michel Tomenga et Jérôme Kodjo Akucha. Au studio, deux confrères déjà en place, un troisième va arriver incessamment. Mais également une personne invitée qui va nous parler d'un sujet que nous allons découvrir dans un moment. Le temps de découvrir et saluer Jacques Djakouti, Laya, bonjour.
Bonjour Sass, bonjour aux auditeurs, auditrices de Canal FM.
Merci d'être à nos côtés.
Ouais, le mois béni pour les musulmans et le mois béni également pour les chrétiens.
Mais le mois béni également pour les Togolais.
Oui,
Parce que ce mois d'avril, l'indépendance. La Pâque, c'est le week-end prochain. D'abord, les chrétiens sont déjà dans la semaine sainte. Nous prions que le Saint-Esprit nous enflamme positivement. Et après la Pâque, dans quelques jours, c'est Harim Yahou Tchanyahou et ses collégiens, les musulmans. Vous allez clôturer le mois béni de Ramadan avec la grande fête. Harim Yahou, bonjour d'abord.
Bonjour Sass, bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Canal FM. C'est bien évidemment ce que vous dites. Le mois d'avril est un mois béni aussi bien pour les chrétiens, pour les musulmans que pour tous les Togolais, pour toutes les raisons que chacun connaît. Et très prochainement, dans quelques jours encore, nous allons casser, ou comme les gens le disent communément, pour célébrer avec tous les Togolais le Ramadan.
Eh bien, après la fête chrétienne, la Pâque, après la fête du Ramadan, ce sera la fête nationale de l'indépendance du Togo. Ce sera le 27 avril prochain. Et nous apprenons déjà par indiscrétion que les forces de défense de sécurité s'entraînent pour le grand défilé. Pour la circonstance, ce sera le 27 avril prochain. Mais d'ici là, nous allons tenir le club de la presse au jour le jour. Et aujourd'hui, par exemple, nous revenons rapidement sur la coopération que le pays entretient avec la Banque mondiale et la France, avec deux visites que nous venons d'avoir il y a quelques heures, pour ne pas dire quelques jours. Et nous allons également nous projeter sur les prochaines échéances électorales, notamment comment ça se murmure ou bien ça se prépare dans les rangs de la DMK. Est-ce en tout en harmonie ou bien est-ce que cette dynamique, Monseigneur Kodjo, émet des signes un peu divergents? Nous allons voir tout ça et également revenir sur les libertés accordées à des prisonniers. Il y a la grâce présidentielle à 352 prisonniers. Il y a le cas Pacha qui a été évacué ou transféré, c'est selon, au Gabon. Et alors que d'autres personnes souhaiteraient plutôt que certaines personnes à qui on reproche la mort de manifestants au Togo aillent goûter à la prison avant de sortir. Mais commençons déjà par le premier sujet pour lequel notre invité est à nos côtés. D'abord, découvrez-la. C'est Madame Déborah Djokui, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Eh bien, Déborah Djokui, vous êtes de la société M-Auto Électrique.
Oui.
N'est-ce pas?
Oui, c'est ça.
Eh bien, commençons par ce sujet justement. Votre société, voulez-vous nous la présenter en quelques phrases?
Ok. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio Canal FM. La société M-Auto Électrique est une société qui est spécialisée dans la fabrication et dans la distribution des engins purement électriques.
Fabrication et distribution d'engins électriques.
Oui.
Et quand vous parlez d'engins, vous pensez à quoi?
Bon, actuellement, nous sommes sur les motos, c'est-à-dire les engins en deux roues.
Et les motos sont quand même au programme?
Oui, oui, oui.
Ce sera pour quand?
Les motos sont déjà disponibles.
Non, et les autos? Après les motos, les autos.
Ah bon, on commence avec les motos et on verra après.
On verra.
Oui.
Ok. Eh bien, donc, vous fabriquez et vous distribuez des engins électriques ici au Togo.
Oui, ici au Togo.
Mm-hmm. Eh bien, il semble que vous êtes logé au sein de la PIA, la plateforme industrielle d'Antiticopé.
Oui, la société M-Auto électrique a sa base au niveau de la plateforme industrielle d'Antiticopé. Mm-hmm. Comme nous le savons tous, c'est une plateforme qui accueille des sociétés étrangères. Donc, la société M-Auto est l'une des sociétés qui est installée et basée sur la plateforme industrielle d'Antiticopé. C'est là que se fait la fabrication des motos électriques.
C'est là que vous fabriquez vos engins électriques, oui, dont on voit certains déjà en ville. Alors, dites-nous, madame, quels sont les avantages à piloter une moto électrique?
Les avantages que nous disposons en pilotant un engin électrique est que, premièrement, je contribue à la pollution contre l'environnement. Parce que à la lutte contre la pollution de l'environnement. Mm-hmm. Puisque aujourd'hui, bon, les motos que nous utilisons, nous pouvons voir qu'elles dégagent de la fumée qui pollue l'environnement. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, avec les engins électriques, quand j'utilise un engin électrique, je sais que je contribue à la lutte contre la pollution de l'environnement. Mm-hmm. D'autres avantages est que j'économise mieux en dépenses, puisque ici, les engins électriques ou bien les motos électriques, je ne fais pas ni de vidange, ni changement de d'enchaîne, des bougies, ni quoi que ce soit. C'est une batterie qui permet à la moto de pouvoir se déplacer.
Mm-hmm. Et la batterie est disponible?
Oui, la batterie est disponible.
Du territoire.
Oui, c'est une batterie qui est rechargeable. C'est-à-dire, quand j'utilise la moto, quand la batterie se décharge, il y a des stations de rechange de batterie. Là, le client se rend dans une station pour pouvoir échanger sa batterie.
Est-ce que vous avez déjà fait une enquête auprès des premiers utilisateurs pour qu'ils vous parlent de comment ils se comportent, les consommateurs de vos produits?
Ok. Au début, comme c'est une nouvelle innovation, les clients ont été rétentissants parce qu'ils se disent est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est avantageux? Mais les premiers clients qui ont adhéré à l'utilisation l'ont trouvé vraiment bénéfique parce qu'ils économisent en consommation, en réparation, etc. Donc actuellement, la population, bien les clients, se mobilisent plus pour l'acquisition de ces motos électriques.
Mm-hmm. Eh bien, nous apprenons que vous venez de lancer une campagne dénommée Zem Choco. Vous confirmez?
Oui, je confirme.
Eh bien, c'est quoi cette campagne Zem Choco?
La campagne Zem Choco est une nouvelle offre qu'a lancée la société M Auto Électrique. C'est une campagne qui consiste à échanger sa moto thermique qui est fatiguée, épuisée, et contre une moto électrique gratuitement. Mm-hmm. J'explique. J'ai une moto thermique que j'ai utilisée peut-être pendant 10 ans, 12 ans, qui est fatiguée, qui me fait dépenser. La société M Auto Électrique me donne l'opportunité de nous ramener cette moto thermique-là et de reprendre une nouvelle moto commando gratuitement.
Gratuitement?
Oui.
Donc, j'apporte ma vieille moto thermique amortie.
Oui.
Et vous m'offrez en retour une nouvelle moto électrique.
Contre rien. Mais il y a des conditions quand même.
Justement, c'est les conditions. Parce que, madame, ce qui est souvent trop beau.
Les conditions, c'est que premièrement, nous devons nous rassurer que vous êtes le propriétaire de la moto thermique. C'est-à-dire que vous devez accompagner de la moto les pièces de la moto.
Notamment la carte grise.
La carte grise de la moto. Si c'est que vous avez payé la moto chez quelqu'un, vous devez avoir un reçu de vente pour qu'on sache que vraiment vous êtes actuellement le propriétaire de la moto. Mmh. Avec soit votre carte d'identité ou bien votre carte d'électeur. Avec un montant de 20 000 francs qui sert de caution. Jusque actuellement, pour les 300 premiers clients, c'est l'entreprise même qui subventionne ces 20 000 francs. Mais après ça, le client doit savoir qu'en ramenant sa moto thermique, il doit l'accompagner de 20 000 francs.
Mm-hmm. Mm-hmm. Et puis, vous lui offrez un retour.
Et puis, on lui donne une moto avec la plaque, l'assurance, une nouvelle moto.
Et en quels endroits cet échange peut se faire?
L'échange peut se faire dans nos différentes agences, comme l'agence qui est au niveau de GTA en face de l'ancienne Togocel ou à Pays. PIA annexe ou à notre agence qui est au niveau de la paix, ou soit vous contactez notre numéro vers le 88 84 ou un numéro WhatsApp ou un numéro Togocel, le 92-03-45-78.
Vous n'avez pas encore d'agence hors de Lomé dans le Togo profond?
Actuellement, bon, les points sont disponibles de Lomé jusqu'à Atakbamé. Vous pouvez trouver aussi les points à Kbalimé, à Nehor, Vogan, etc.
Donc tous ces points-là, sur l'ensemble du territoire,
l'offre Zem Choco est disponible.
À servir exactement. L'opération Zem Choco.
Oui.
Donc en somme, j'ai une moto thermique amortie. Je la conduis auprès de l'une de vos agences. Oui. Si je suis dans les 300 premiers, alors je ne paie rien.
Exactement.
Mais si je viens après les 300 premiers, j'apporte une contribution de 20 000 francs. Et en retour, j'ai une moto, une nouvelle moto électrique.
Oui, exactement.
Et je pars avec.
Et vous partez
en toute
avec.
Garantie.
Oui.
Et l'opération court jusqu'à quand?
Il n'y a pas de date limite pour le moment. On continue pour le moment.
Merci, c'est Madame Déborah Djokui de la société M-Auto qui vient de nous parler de sa société installée ici au Togo. Elle fabrique et distribue les motos électriques. Et pour appuyer ça, il y a cette campagne de Zem Choco qui consiste à ce que nous apportions les motos thermiques amorties et en retour nous repartons avec une nouvelle moto électrique. Vous nous disiez que l'offre Zem Choco est disponible dans toutes vos boutiques au Togo.
Oui.
Ok. Est-ce que l'opération Zem Choco concerne uniquement les conducteurs de Zemidjan ou bien tout propriétaire de moto thermique?
Pour l'opération Zem Choco, bon, j'avais parlé de l'objectif, au fait, c'est lutter contre la pollution de l'environnement. Mm-hmm. Donc, la société se dit qui sont ceux qui conduisent plus les motos, sont les conducteurs de taxi-moto. Donc, l'offre cible plus cette couche-là. Puisque, comme j'avais parlé de conditions, il y a des kilométrages à parcourir. Là, si vous êtes personnel, vous utilisez votre moto pour juste aller au service et revenir, vous allez voir que vous ne pouvez pas parcourir ce kilométrage-là. C'est-à-dire, par exemple, pour la moto commando, elle dispose de deux batteries qui parcourent 70 km avant de se décharger. Donc, le client qui prend la nouvelle moto doit savoir que mes courses me permettent de pouvoir parcourir ce kilométrage-là dans la journée. Mmh. Vous voyez un peu. Donc, c'est une offre qui couvre un peu les conducteurs de taxi-moto. Soit vous êtes livreur, vous êtes agent de terrain, vous êtes coursier. Là, vous savez que vos courses sont énormes et peuvent couvrir ce kilométrage-là donné dans la journée.
En somme, l'opération Zem Choco, pour le moment du moins, ça concerne les conducteurs de taxi-moto, nos chers et fidèles Zemidjans.
Oui.
Merci à vous, madame. Vous restez à nos côtés. Quand nous allons ouvrir les antennes à 12h, il se peut qu'un auditeur, une auditrice veuille en savoir davantage. Vous serez là vous-même pour répondre à ses préoccupations, à moins que Jacques Diakouti ou bien Rémiaou Tchanyaou ou encore Didier Assogba qui vient nous rejoindre. Didier, bonjour.
Bonjour Sassi, bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM. Bonjour à mes aînés en studio.
Tu nous diras bientôt si tu penses aller changer ta moto contre la nouvelle. Mais Jacques Diakouti, une question?
Oui, je crois que... Non, j'ai vu l'opération un peu au Burkina pour l'échange des motos. J'ai vu les Vespa de 1945 que les gens sont venus échanger avec les motos. Mais ma question ici, c'est par rapport à ces motos, les endroits où les gens peuvent charger. Parce que nous savons, nous allons bientôt rentrer dans la période des pluies. Et nous savons que pour parcourir assez de kilomètres à Lomé, vu effectivement les routes, c'est un peu difficile. J'ai vu également nos compatriotes qui ont commencé par utiliser les motos. Mais le seul problème, c'est comment charger effectivement ces batteries-là. Okay. Est-ce que vous allez essayer de développer les points où nos compatriotes pourront charger effectivement ces motos-là, au lieu d'aller toujours vers votre siège pour charger?
Ok. Parlant de points de rechange de batteries, actuellement dans le Grand Lomé, nous disposons plus de 70 points dans le Grand Lomé uniquement, okay, pour pouvoir échanger les batteries. C'est-à-dire, il y a les points partout maintenant et il y a une application M-Auto qui permet aux conducteurs de pouvoir localiser très rapidement là où se trouve le point de rechange.
Merci. Arim, il y a une question à toi aussi?
Oui, non, bon, je couvre de beaucoup d'admiration tout ce que Mme Déborah vient de dire. Et je suis curieux parce que là, je voudrais voir à combien une moto coûte. Quand on n'a pas Zemidjan à venir échanger avec les 20 000.
D'accord.
Combien coûtent les motos pour quelqu'un qui n'a pas à faire l'échange?
Okay.
Ça, c'est la première question. Bon, la deuxième question, je suis un peu curieux pour aller au fond de votre société pour savoir ce que vous faites avec les vieilles motos thermiques que vous prenez.
Mm-hmm.
Parce que c'est un peu curieux de voir que les motos, Diakouti a dit qu'au Burkina, les gens ont mené des motos de 1945. Vous faites quoi avec les épaves ou les carcasses de ces motos-là,
mm-hmm,
que vous luttez contre, en effet, puisque vous êtes en train de lutter contre la pollution. Et donc, les motos thermiques, vous en faites quoi, vous autres?
Okay. Madame, je commence par la première question,
oui,
qui demande à savoir les prix pour un usager personnel.
Mm-hmm.
Nous avons actuellement deux types de motos. Une qui est comme scooter d'âme. Si vous voulez la payer en cash, c'est à 695 000.
Franc CFA.
Mais nous vous offrons aussi l'opportunité de pouvoir payer sur un an. Le client veut, il peut payer ça sur un an, c'est-à-dire il peut opter pour un paiement soit par jour, soit par semaine ou mensuel. Maintenant, la grosse moto commando, le prix cash est à 883 720. Là aussi, le client peut payer soit journalièrement, hebdomadairement ou bien mensuellement.
Mm-hmm.
Ça dépend du choix du client.
Merci.
Maintenant, pour les motos, les engins thermiques, comme je l'ai dit au début, l'objectif, c'est de pouvoir lutter contre la pollution de l'environnement en éradiquant ces engins de date qui sont endommagés, fatigués et que nous prenons. Et là, nous les échangeons par nos motos électriques. Mais les engins thermiques que nous prenons, ça, c'est pour aller à la casse. Nous ne ferons rien avec ces engins et thermiques-là. Ce qui voudrait dire que bon, nous ne demandons pas aux clients de nous amener une nouvelle moto, non. Des motos qui sont fatiguées, qui fait dépenser au client. Le client a le désir de changer la moto, mais peut-être qu'il manque de moyens. Donc, c'est de ces motos-là que nous parlons.
Merci, Déborah, mais vous restez à nos côtés pendant que nous évoluons dans nos échanges. Eh bien, on peut conduire sa moto, notamment l'opération Zemchoko, s'adresse aux conducteurs professionnels du taxi-moto, les éminents. Mais peut-être que quelqu'un veut faire un autre travail,
oui,
notamment travailler dans l'administration publique.
Ça, s'il te plaît, sa version, parce qu'il y en a qui sont un peu confus. Elle parle de gratuité, alors qu'on sait que par rapport à cette moto-là, il faut verser au moins 32 000 par jour. Il faut repousser ce point-là. Parce que quand vous parlez de gratuité, c'est comme si, bon, quand on vient, on prend la moto gratuitement. Alors qu'il y a quand même quelque chose qu'il faut payer.
Dans l'opération Zemchoko.
Zemchoko, bon,
elle a dit, Déborah.
Il faut
l'opération Zemchoko,
oui, il faut retirer la pensée.
Ouais. Oui. Vous venez avec les pièces de votre moto, accompagnées de la photocopie de votre carte d'identité, avec la caution de 20 000 francs pour des clients qui seront au-delà des 300 premiers clients.
Mm-hmm.
Maintenant, pour le paiement, puisqu'on ne vous vend pas la moto, c'est une échange. Mais ce qu'on vous demande, j'ai parlé de rechange de batterie.
Oui.
Par exemple, pour un client personnel, il peut échanger sa batterie selon son besoin. Mais pour le client qui participe à l'offre Zemchoko,
oui,
est obligé d'effectuer la rechange deux fois journalièrement. Ce qui voudrait dire que si vos courses ne sont pas capables de pouvoir couvrir ce kilométrage-là, vous n'êtes pas éligible à cette offre-là.
Mm-hmm.
Mais ce n'est pas qu'il y a un montant que vous allez verser par jour, comme quelqu'un qui paie la moto, soit par jour, par semaine ou bien mensuellement. Ici, l'offre vous dit qu'il faut échanger votre batterie deux fois dans la journée sur un kilométrage donné.
Mm-hmm.
Maintenant, une fois ce kilométrage atteint, le client est libre maintenant de pouvoir commencer par échanger sa batterie selon son propre besoin.
Alors, pour l'opération Zemchoko,
oui,
soyons clairs.
L'opération Zemchoko,
ceux qui seront dans les 300 premiers,
oui,
ils apportent les pièces justificatives de leur moto.
Exactement.
Et vous leur prenez leur vieille moto thermique amortie, vous leur remettez la nouvelle moto électrique gratuitement.
Oui, gratuitement.
C'est bien gratuitement.
Oui, c'est gratuit.
Maintenant, ceux qui viendront après les 300 premiers, c'est eux qui devront verser une caution de
20 000 francs.
20 000 francs CFA.
Oui.
Et ensuite,
ils prennent la nouvelle moto.
Et gratuitement.
Oui, quand tu prends
c'est
la nouvelle moto,
oui,
la condition, c'est que tu échanges deux batteries dans la journée sur un kilométrage donné.
Mm-hmm.
Mais ce n'est pas qu'il y a un montant que tu dois payer. mais tu échanges ta batterie deux fois dans la journée sur un kilométrage donné.
C'est pourquoi l'opération couvre aux
conducteurs de taxi-moto. Parce que eux, ils échangent plus de deux fois même leur batterie dans la journée.
Merci. Donc, nous mettons trois points de suspension, mais nous pourrons y revenir si les auditeurs le souhaitent. Je disais que soit on peut choisir volontairement d'être, de travailler comme taxi-moto, mais on peut aspirer à travailler dans la fonction publique. Et depuis quelque temps, pour être fonctionnaire, il faut passer un concours. Les concours, on en passe, même si les résultats se font toujours attendre. Il y a quand même des concours, la preuve, ce nouveau concours de la fonction publique dont nous parle Togo Matin, qui écrit « Fonction publique, un concours de recrutement de 1628 agents de santé vient d'être lancé ». Harry Miaou, c'est la façon de l'État de résorber assez progressivement le chômage.
Non, je crois que l'État démontre aux yeux de tous les citoyens combien il est concerné par la situation de chômage que les jeunes traversent ou vivent. Mais il y a quelque chose que je trouve un peu anormal. Je crois que l'État fait ses efforts, mais tout le temps qu'il y a les concours, on attend des années avant d'avoir les résultats. À l'heure où nous parlons, je crois qu'il y a un concours général de la fonction publique qui avait eu lieu, qui doit être en train de faire deux ans, et les jeunes qui ont passé ce concours attendent. On se demande comment est-ce que ça arrive qu'on passe le concours, on fait des années, et pendant même que on n'a pas encore proclamé les autres concours, d'autres concours viennent et sont ravalés par les anciens. Donc, vivement, il serait bon que pendant qu'on lance des concours, qu'on essaye d'en finir avec les autres qui sont là, surtout celui qui fait déjà deux ans, où des enfants ont postulé, ils ont compéti, ils attendent. Et donc, l'État fait l'effort, ça c'est à saluer, mais de l'autre côté, ça traîne trop pour voir les résultats. Je me dis que quand on lance un concours, c'est parce qu'on a pris toutes les dispositions, on a tous les moyens qu'il faut pour aller passer ce concours-là. Et c'est pour ça, justement, qu'on lance. Mais quand on lance et ça traîne, et que les résultats ne sortent pas finalement, ça inquiète, ça met les gens dans l'attente qui ne doit pas être en réalité.
Merci Didier. Didier, d'abord, on prend acte de ce nouveau concours qui vient d'être lancé, 1628. Agent attendu, sauf que, comme le disait tantôt Harry Miaou, il y a déjà un bon quelques années que les jeunes ont passé le concours général de la fonction publique. Ça fait plus d'un an, on n'a pas toujours de signe de résultat. Mais avant ça, il y a eu des concours sectoriels lancés par le ministère de l'économie. On attend toujours les résultats. Il y en a de même pour le ministère de l'agriculture. À se demander finalement quand la proclamation de ces différents concours.
Oui, justement, vous touchez là un sujet de taille, un sujet de préoccupation nationale en réalité. Et pour répondre à cette question, moi je convoque ici les instructions données dernièrement par le chef de l'État à l'issue du séminaire gouvernemental qui s'est tenu à Palimé, où selon le communiqué officiel qu'on a eu, le chef de l'État a dit qu'il faut aller vite et bien. Vite et bien, ça veut dire que le chef de l'État lui-même a remarqué que dans l'action gouvernementale, il y a une lenteur, lenteur administrative, d'accord, mais il y a une lenteur qu'on pourrait mieux faire en accélérant un peu les actions qu'on initie. Et si, dans ce contexte-là, on se rappelle qu'il y a plusieurs concours qui sont lancés, et justement pour combler un besoin, l'insuffisance de personnel qui est à la base, justement, de cette lenteur-là constatée dans la plupart des départements ministériels, et que ces concours sont organisés à chaque fois, et qu'il faut que les citoyens commandent pratiquement tous les jours les résultats, ma foi, il y a un peu une dichotomie entre la volonté et l'action. Et il faut justement que le chef de l'État, si ses services sont à l'écoute, justement instruise les ministres et les autres départements pour que justement tous les concours soient proclamés et que les agents qui ont réussi à ces concours puissent prendre rapidement fonction, ça aidera l'action gouvernementale à prendre une nouvelle allure qui, justement, permettra au Togo d'atteindre les résultats dans plusieurs domaines. Si nous prenons le secteur de la santé, il y a chaque fois, on écoute les syndicats de ce secteur-là tirer sur la sonnette d'alarme du manque de personnel et tout. Heureusement qu'on vient de lancer un concours, et ça, encore, c'est un concours, on peut dire, régional, parce que ça concerne que la région des savanes, pour les 1600 là, pour équiper étoffer le personnel des unités de soins périphériques et autres centres de santé de la région des savanes. Mais le même besoin se retrouve dans chacune des autres régions. Et à Lomé, ici même, il y a des problèmes de garde dans les hôpitaux parce que, justement, il y a manque de personnel. Donc, si on multiplie les secteurs, le ministère de l'économie, vous en avez parlé, même le ministère de la justice, aussi, il y a un concours là-bas, les résultats sont attendus. Le ministère de l'agriculture, et on veut que notre agriculture soit la pierre de lance, le fer de lance, autant pour moi, du développement économique du Togo, et que les concours organisés depuis sous Bataka sont toujours là, ne sont pas proclamés, ça reste quand même des préoccupations importantes aujourd'hui. Il faut que le gouvernement travaille à ce que tous ces concours soient proclamés, y compris le concours général organisé par le ministère de la fonction publique qui vient encore.
Nous apprend que le concours du ministère des Finances a été passé depuis janvier 2021.
Évidemment.
Ça fait déjà plus de 2 ans que les jeunes attendent. Mais Jacques, il faut quand même nuancer que s'il y a des concours dont on attend assez longuement les résultats, il y en a d'autres dont les résultats sont proclamés assez promptement. Quand un concours se fait passer par la police, ou bien la gendarmerie, ou bien les forces armées togolaises, c'est dans les semaines qui suivent. Depuis quelque temps avec Okoroko, le ministère de l'Enseignement également, les résultats sont proclamés pas trop loin. Alors il va falloir que les autres secteurs, les autres ministères, demande à voir comment la police, la gendarmerie et les forces armées font comment ils font pour proclamer rapidement leurs résultats, n'est-ce pas Jacques?
Non, je crois que il faut quand même pousser une réflexion. Est-ce qu'il y a effectivement un répertoire au niveau de la fonction publique au Togo?
Il devrait y en avoir.
Voilà, s'il y a un répertoire, c'est-à-dire que on sait le nombre de fonctionnaires qui doivent partir par exemple à la retraite à la fin de l'année 2023. Et quand on lance un concours, on ne peut pas attendre encore des années avant de pouvoir proclamer les résultats. Si on sait le nombre de ceux qui vont partir à la retraite, ce qui veut dire qu'on est prêt à combler, par exemple, ces trous. Mais s'il faut attendre, par exemple, un concours qui a été organisé en 2012 et on ne proclame pas les résultats...
Tu vas encore trop loin.
Bon, c'est une façon de parler, quoi. C'est pas si je me fais... Regardez le concours sectoriel du ministère des Finances, par exemple.
Janvier 2021.
Quand même, il y a un problème. Soit peut-être qu'il n'y a pas de place, peut-être qu'on essaie d'organiser ça pour dire, bon, l'État organise les concours, soit il y a les places et les gens ne veulent pas céder, partir, bon, on ne proclame pas les résultats. Je crois qu'il faudrait effectivement que le ministre de la fonction publique puisse situer effectivement les Togolais que nous sommes. Nous savons aujourd'hui que dans certains pays, par exemple, on sait le nombre des retraités qui doivent partir, par exemple, à la fin de cette année. Et on sait, par exemple, le nombre de recrues qu'on aura pour remplacer ces personnes. Mais si on est là, peut-être que les gens, sûrement que peut-être les gens ne veulent pas partir. Et là, on met en jachère, par exemple, les concours qu'on organise. Mais ce n'est pas bien. Parce que vous avez, par exemple, les gens, SAS, qui ont passé, par exemple, le concours peut-être à 18 ans ou bien à 20 ans. Qui sont obligés d'attendre 5 ans après qu'on proclame les résultats, et ces personnes-là vont commencer peut-être la fonction à partir de 30 ans. Et on sait qu'en Togo, on va à la retraite à 60 ans. Vous voyez combien d'années les gens-là vont prendre pour cotiser, par exemple, à la Caisse nationale de sécurité sociale, oui, pour pouvoir bénéficier effectivement de leur retraite, du jour après de leur retraite. Je crois qu'il y a quand même un problème, vous l'avez si bien dit. Pourquoi ça marche, par exemple, au niveau de la police, de la gendarmerie, les forces de défense,
sécurité
et l'enseignement,
et qu'ailleurs, ça traîne
et que ça
ainsi
ne peut pas marcher. Donc je ne crois pas que ce n'est pas que le ministre Bawara ne veut pas, par exemple, proclamer et peut-être les résultats des concours, mais il faut également tenir compte peut-être de la ligne budgétaire. Peut-être qu'on organise des concours, mais après on se rend compte qu'en voulant peut-être embaucher beaucoup, l'État n'a pas les moyens. Donc, on fait un peu la rétention de la proclamation de ces résultats. le temps de voir si l'État peut-être peut enfouir les caisses après recruter les gens. Vous allez voir aujourd'hui que quand vous prenez par exemple la PIA aujourd'hui, qui est Aditikopé, vous allez là-bas, vous voyez des jeunes qui sont tellement compétents, qui sont en train de travailler. La preuve, les sœurs là sont parmi nous, elles se sont installées là-bas. Donc c'est pour vous dire que quelque part, si par exemple l'État a la volonté, l'État peut mettre les moyens. J'ai toujours donné le cas par exemple de Kara. Vous savez, entre-temps il était dit qu'on allait installer également la zone franche à Kara.
Oui.
Mais pourquoi ça ne marche pas? C'est parce qu'il n'y a pas d'électricité. Aujourd'hui, il faudrait que l'État puisse financer. S'il n'y a par exemple l'électricité, je vous dis qu'on peut installer cette zone là-bas. Les motos qu'on est en train de fabriquer ici à Lomé, on peut les fabriquer également à Kara pour servir effectivement nos frères qui sont au nord. Moi, je crois que quelque part, il faudrait qu'on puisse quand même mettre de la volonté par rapport à la chose.
Quand on discute avec même certaines autorités, on découvre que l'administration togolaise souffre de cadres. On n'arrive pas toujours à remplacer les départs en retraite, d'où certains retraités qu'on retient par concours dans certains services et ministères. Aujourd'hui, c'est une personne qui fait le travail de 2-3 personnes. Ça veut dire qu'il y a un besoin de personnel. Alors vivement qu'on proclame ces résultats-là. Et comme Jacques l'a dit, peut-être qu'il y a un fichier qu'on va consulter pour que nous ayons une administration qui réponde à la volonté du chef de l'État de nous conduire vers un Togo émergent.
Oui, je ne crois pas que l'État va aller se faire acquérir en jouant la complaisance. Et je crois comprendre aussi que l'État doit avoir un répertoire et connaît tout. L'État, c'est la planification. Et je pense également et crois fermement qu'on sait où on va. Si on ne proclame pas les résultats, peut-être si vous allez au ministère de la fonction publique ou dans les domaines concernés, on vous dira qu'on ne voulait que 1000 ou 2000 ou 3000, mais les gens sont plus de 60 000, de 80 000, et que corriger les épreuves, suivre tout jusqu'à aller sortir les bons, c'est ça qui fait prendre le temps. Mais je dis que quand on sait où on va, quand on a la volonté de l'action qu'on veut mener, on prend toutes les dispositions. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que je ne crois pas qu'on s'est réveillé un petit matin et puis on dit, bon, on va dire qu'il y a un concours. Et comme Diakouti disait que peut-être qu'on lance, mais on n'a pas, la ligne budgétaire n'est pas là. Je crois que non, l'État planifie tout. L'État sait où il dirige les populations. L'État n'est pas complaisant. L'État ne peut pas se réveiller un matin comme aujourd'hui, comme ça, et dire que bon, je vais dire aux Togolais qu'il y a concours. Mais je vais faire ça et attendre 4 ans, 5 ans. Il faut accompagner la volonté, les actes à la volonté qu'on marque. On a voulu faire un concours, on l'a fait, qu'on donne les résultats. S'il y en a d'autres qu'on fait, qu'on donne rapidement les résultats. Quand on a parlé de la police, c'est la même chose. Les gens sont nombreux, les gens affluent pour participer à ces concours-là. Mais on a les résultats. Ça veut dire que quelque part, on priorise certains domaines, excusez-moi de le dire. Vous allez voir que quand on va faire le concours pour la santé, par rapport à ce que Didier dit, on ne fera pas 3 mois. Et si on ne fait pas 3 mois, on donne les résultats. Quelque part, il y a une volonté. Et s'il y a des gens qui bloquent, qu'on donne les résultats, qu'ils débloquent, pour que le ministère de la fonction publique, pour que tous les autres concernés puissent donner les résultats. Cela va d'ailleurs dans l'intérêt de l'État. Cela va dans l'intérêt avant tout des Togolais, mais beaucoup plus dans l'intérêt de l'État, qui démontre aux yeux de tout le monde combien il est préoccupé, combien il est intéressé, combien il comprend la douleur de la jeunesse. Et cette jeunesse, c'est elle qui fait la grande partie des citoyens togolais. Plus on donne vite les résultats, on a un peu la paix, on est assoupli à tout moment. Et moins on traîne, ça veut dire qu'on se crée des problèmes soi-même.
Justement, merci. Ça, sur le sujet, je crois
oui,
que depuis...
on va terminer par là.
Oui, depuis quelques années, depuis l'arrivée du ministre Bahara à la tête du ministère de la fonction publique, au moins, il y a deux fois l'année, la liste des agents, voilà, la liste des départs à la retraite,
oui.
qui est diffusée, on a souvent ces listes-là. Et je pense que c'est un travail de fond qui se fait pour qu'on connaisse la liste, au moins le nombre de ceux qui partent juste... partent à la retraite. Sauf que derrière, il n'y a pas un autre concours qui est organisé, puisque justement, les autres concours qui avaient été organisés n'ont pas été proclamés. Et donc, du coup, en fait, le fait de ne pas vite proclamer les résultats des concours, rien ne peut l'expliquer. Parce que si on organise un concours, c'est la volonté, ça veut dire qu'on veut recruter des gens.
Donc on a identifié les postes à pourvoir.
Justement, et donc ça veut dire qu'on ne peut pas finir d'organiser les concours et laisser les gens à la maison 2-3 ans avant de proclamer les concours. Rien ne peut expliquer cela parce que Déjà, nous sommes dans un pays où tout est urgence. Et donc, si tout est urgence, il faut justement qu'on trouve des agents, des du personnel qui répondent justement à ces urgences-là.
Non, liberté, moi, je crois que ça c'est oui, peut-être... On peut également parler de la pression. Parce que vous savez, quand on parle, par exemple, de la santé, vous savez, si aujourd'hui, vous n'avez pas, par exemple, le personnel soignant dans nos hôpitaux, si la population se soulève, il y aura un problème au niveau, effectivement, du gouvernement. Vous prenez le côté, par exemple, de la police. Il n'y a pas, par exemple, les policiers, il n'y a pas les gendarmes, il n'y a pas les militaires dans les garnisons pour pouvoir assurer la sécurité. C'est un problème pour le pays. Vous prenez également le secteur également de l'éducation. S'il n'y a pas, par exemple, les enseignants, les parents d'élèves sont obligés également de sortir. Donc, c'est pourquoi. Vous voyez que dans certains secteurs, c'est parce qu'il n'y a pas la pression. Je vous dis, s'il y avait la pression, on allait proclamer vite les résultats.
C'est pas bon.
Si, non, mais c'est ça. Il faut qu'on se dise la vérité. Si supposons que on organise le concours de l'armée, et bon, certains sont partis à la retraite, et on ne proclame pas les résultats au niveau de l'armée pendant 2 ans. Vous croyez que ça serait facile? Ça n'est pas, ça n'est pas du
mais
tout facile.
Mais entre nous, est-ce que l'État a besoin
qu'on lui mette la pression
avant de recruter dans
qu'est-ce
les
que vous
secteurs
voulez
vitaux?
Mais nous sommes, c'est des remarques que
merci,
nous sommes en train de
nous
faire.
Allons continuer avec la liberté. Cette liberté à laquelle goûtent 352 prisonniers. S'ils ne sont pas encore sortis, ils vont sortir récemment parce que c'est une grâce présidentielle prise en leur faveur. Les journaux le rappellent aujourd'hui, Nouvelle Opinion. Le président Faure Gnassingbé qui gracie 352 prisonniers de différentes garnisons. La liste est disponible sur les réseaux et dans les médias. Mais le journal Le Correcteur trouve que cette grâce présidentielle est à géométrie variable. Jacques Jacouti.
Non, mais je crois que, vous savez, ça, se parler d'une liberté est une bonne chose. Ça, il faut le reconnaître. Laisser les gens, par exemple, en prison, c'est vraiment difficile. Quelqu'un dans ce pays l'a si bien dit que même à son pire ennemi, il ne souhaite pas la prison. Vous savez, la prison vous démoralise complètement. Et ça change également votre physique, votre mental. Dès que vous sortez de la prison, si vous avez des amis qui sont sortis de la prison, ils vous le diront. Ça dit que la liberté est vraiment une bonne chose. Donc, je crois que parlant de cette grâce présidentielle, c'est vrai qu'on n'a pas encore vu, moi personnellement, pas encore vu la liste, mais on a appris quand même des noms qui circulent. Le nom, par exemple, de l'ancien ministre de la Communication,
Dimo
Oré, qui a également recouvert la liberté. Au niveau de la prison d'Atakpamé, je n'ai pas encore également vu la liste, parce que je sais que le commandant Ati, au niveau d'Atakpamé, on ne sait pas si on les a également élargis. Mais ce qui est important, ce qui est bon, je crois qu'avec cette grâce présidentielle que le chef de l'État vient de signer, c'est une très bonne chose. L'autre aspect maintenant est de voir comment élargir également les autres. Parce que c'est vrai que le ministre Moua a dit qu'on n'a pas des prisonniers politiques au Togo, mais d'autres disent que nous en avons. Mais il faudrait aujourd'hui que ce qu'on appelle par exemple ces prisonniers politiques-là, qu'on puisse effectivement les élargir. Mm-hmm. Même s'il faut trouver un autre terme, comme on ne veut pas parler des détenus politiques, mais qu'on puisse dire peut-être ceux qui ont participé aux manifestations, qu'on les a arrêtés, qu'on puisse quand même les élargir aussi.
Merci. Alors, pour le décret, Arim Yaou, le décret précise que cette grâce bénéficie à des gens qui ont été jugés, condamnés et qui sont pratiquement en fin d'exécution de leur peine. Donc, le décret lui-même précise le contexte dans lequel la mesure de grâce a été prise.
Oui, c'est ça qui permet de comprendre aussi qu'il y a trop d'amalgame autour de la question et que les gens supputent. Les gens n'ont pas la quintessence de la réalité de ce qui se passe là-bas. Parce que quand on dit que ceux qui sont presque en train de purger la peine, vous avez des gens qui ont plusieurs années encore à faire valoir, à passer dans les geôles. Et ces gens-là, les gens se pressent à dire que tel ou tel doit être dans le lot, tel ou tel doit être. Donc, finalement, on attendra de voir qui et qui sont concernés par cette grâce-là pour savoir vraiment quel commentaire ou quelle attitude adopter par rapport à ça. Jakouti a dit qu'il y a un Togolais ou bien quelqu'un qui disait au pire ennemi de ne pas souhaiter la prison. La prison, c'est pas un bon coin. Mais pour être un homme parfait, moi, je vais au-delà à dire que chaque être humain doit faire l'effort de visiter la prison, de voir ce qui se passe là-bas. Chaque être humain doit faire l'effort d'aller à la morgue. Et chacun doit pouvoir faire également l'effort
d'essayer de voir certains domaines pour comprendre que la vie, elle est éphémère, elle n'est rien.
Il y a une nuance entre visiter la prison et y résider pendant 3 mois. C'est
quand, oui, j'ai dit...
La mort.
Oui,
faire un tour
quand
à la
tu
mort,
vois
ou être plaqué là-bas, c'est,
oui,
c'est
oui, j'ai dit différent. Quand tu vois quelqu'un que tu connais et qui est quelque chose dehors les geôles et tu le vois en prison, ça te permet de te faire une idée. C'est de ça que je parle. Et à la morgue aussi, quand on connaît quelqu'un, on connaît tout le poids, tout ce qu'il est, on le trouve inerte quelque part, ça donne une idée. C'est pour cela que j'ai dit que pour être un homme complet, il faut que les gens voient. Et donc effectivement, personne ne souhaite la part à l'autre. Et aujourd'hui, les gens parlent de Jim Oré, s'il est concerné par cette grâce. Dieu merci, c'est une bonne chose. Ceux qui restent et qui sont aussi dans les geôles, si demain, le chef de l'État, ce n'est pas la première fois qu'il accorde cette grâce-là, il le fait très souvent, et nous voyons que le mois d'avril va être effectivement un mois de toutes les grâces que nous avons tous tout à l'heure abordé en début de cette émission en disant que c'est aussi bien pour les chrétiens, pour les musulmans, que pour les Togolais, mais aussi bien aussi pour ces Togolais qui sont en train de profiter de la fièvre de l'indépendance qui s'annonce.
Merci. Donc, ces 352 personnes qui bénéficient de cette grâce présente. Je rappelle que ce sont des gens qui ont été jugés, condamnés et qui tendent vers la fin de l'exécution de leur peine. De cela, on peut aller à l'autre sujet qui défrait la chronique depuis la semaine passée. Il s'agit de cas Kpacha Nyasingbe qui a été évacué ou transféré. C'est selon de Lomé au Gabon. Je rappelle qu'il n'y a pas encore de communiqué d'information officielle, même si c'est avéré que Kpacha se trouve aujourd'hui au Gabon. Alors, Liberté écrit à ce sujet aujourd'hui, Kpacha Nyasingbe et l'opinion gabonaise. Fort se débarrasse d'un colis encombrant pour son pouvoir. Donc, quand on lit l'article de Liberté, c'est que pour une partie de l'opinion gabonaise, Fort Nyasingbe s'est débarrassé de ce colis encombrant pour son pouvoir. Mais vous lirez l'article et vous ferez votre propre opinion. Mais au-delà de ça, un autre article du journal Le Correcteur qui porte même sur le principe de la justice. Alors, Le Correcteur écrit aujourd'hui: en Guinée, un gendarme vient d'être condamné à 10 ans de prison pour la mort d'un manifestant. Alors que Le Correcteur relève Togo, les assassins de Selma Sinandaré, Dissinalengue, Mohamed, Moufidou, Racha, Jojo, toutes ces personnes civiles qui ont trouvé des morts brutales, la force des choses, qui seraient morts par des agents de sécurité. On n'a jamais appris au Togo que de tels faits. Policiers, gendarmes ont été jugés, condamnés, comme nous venons d'apprendre pour la Guinée. Didier.
Oui, et ça reste un sujet de préoccupation. Et à chaque fois que le gouvernement présente devant des organisations de défense des droits de l'homme à des occasions comme l'EPU, examen périodique universel ou d'autres occasions, il y a ces sujets qui sont souvent soulevés. Et je pense que le gouvernement a souvent pris note de ces rappels, de ce que c'est un fait que des civils participant à des manifestations se retrouvent morts, qui perdent la vie par balle des forces de défense et de sécurité, et qu'après il n'y a même pas d'enquête qui est ouverte pour ne serait-ce que connaître les auteurs de ces bavures-là. Qu'on reconnaît des fois et il n'y a pas d'action derrière. Du coup on se demande quand est-ce qu'on pourra y arriver, et on sait que la question et le reproche de l'impunité a souvent été fait aux autorités togolaises, et ma foi, justement, comme vous le dites, et dans le cadre de la justice, si on veut que le Togo continue son processus de démocratisation et de modernisation, et que le Togo parviennent à sa stature de république, je pense véritablement qu'il faut justement que, dans des cas comme ça, qu'on instruise de telles affaires et que les auteurs qui se retrouvent, que ce soit accidentellement ou que ce soit pas en pleine connaissance de cause, qu'ils ôtent la vie à des êtres humains, qu'au moins on puisse, ne serait-ce que pour leur propre bien, de façon naturelle pour leur propre bien quand vous arrivez à faire du mal à quelqu'un ou à ôter la vie d'un être humain, il faut quand même que au moins vous connaissiez la justice naturelle, même si c'est quelques jours de prison, quelques mois de prison. Je pense que ça fait du bien à l'auteur présumé que de le laisser dans la nature comme ça et on ne sait pas ce qui pourrait advenir.
Justice, c'est le troisième pilier de Togo démocratique que nous voulons bâtir. Nous continuons avec les prochaines échéances électorales. L'année 2023 va connaître deux élections, les régionales avec pour aboutissement le Sénat, mais également les élections législatives. C'est une information officielle, mais pour le reste maintenant, nous faisons des supputations par-ci, par-là. Mais pour le sujet d'importance, c'est comment est-ce que au sein de la dynamique, Monseigneur Podjuro, on prend position pour ces élections à venir. Mais commençons par cette messe que la DMK a organisée hier dimanche 2 avril pour les 93 ans de vie de Monseigneur Podjuro. C'était à la paroisse hier. Mais quelle dynamique a rencontré la presse vendredi pour rendre publique une déclaration au terme de laquelle Liberté écrit aujourd'hui à la page 2 « Élections législatives 2023 au Togo, les exigences de la DMK pour la transparence et l'inclusivité de ce scrutin ». Sur le même sujet, et c'est l'information à la manchette de la Nouvelle Opinion, Harry Miaou, ton journal affiche aujourd'hui régionale et législative au Togo, Adjamagbo et les siens salivent, Podjuro coupe l'appétit.
Oui, absolument, mais vous savez que tous les états-majors des partis politiques au Togo savent qu'il y a des enjeux qui les attendent. Et comme les mois se grainent sur l'année, chacun est en train, comme il le peut, de se préparer pour aller à ces joutes électorales. Mais au niveau de la DMK, il était annoncé depuis plusieurs mois qu'on dira une position. Et finalement, nous avons connu la position de la bouche de la coordinatrice, Mme Adjamagbo, qui, sur la question des régionales, disait qu'il n'était pas dans leur agenda de participer aux régionales parce que pour eux, les mairies n'ont pas encore maîtrisé ce qu'elles doivent faire. Et ensuite, qu'il n'y a pas les moyens. Et par rapport aux législatives, effectivement, Liberté a bien titré qu'il y a eu des exigences. Je crois que c'est des propositions que la DMK apporte afin de pouvoir oser tenter de participer aux prochaines législatives. Pour la DMK, selon Adjamagbo, il faille que les gens se retrouvent et qu'ils posent des jalons qui garantissent une transparence et beaucoup d'autres points par rapport aux législatives prochaines. Maintenant, le monde a été agréablement ou désagréablement surpris par la sortie de celui qui emprunte son nom à cette dynamique, Monseigneur Podjuro, qui dit qu'il n'y a pas question d'aller à une quelconque élection, parce que pour lui, le contentieux de 2020 n'est pas encore vidé. Et tant qu'on invite, le Togo n'ira pas solutionner ou vider ce contentieux, personne, ceux qui utilisent ou bien aucun, ne doit utiliser son nom pour aller et qu'à ses 93 ans, lui, il se battra pour faire blocus à toute tentative d'aller à une quelconque élection avec son nom. Donc, ça veut dire quelque part que Adjamagbo et les siens, effectivement, salivaient. Si on leur donnait satisfaction, ils vont aller aux législatives. Mais celui qui leur emprunte leur nom, son nom, dit qu'il n'est pas dans ce chemin parce que pour lui, il faut aller vider le contentieux. Et je crois que tout le monde a conscience que de 2020 à 2023 aujourd'hui, nous sommes à 3 ans. Et si les gens s'accommodent, même la DMK avec la coordinatrice s'accommode à comprendre qu'on ne peut plus revenir sur cette question, ça veut dire que quelque part, il y a un blocus qui s'annonce au niveau de la DMK ou alors les gens vont se libérer d'emprunter le nom de la DMK pour aller aux élections si jamais il y a des négociations qui se font ou on maintient, on ne pourra plus rien faire là-bas.
Oui, justement, Jacques, au terme de la déclaration rendue publique par la DMK, on comprend que cette dynamique ne serait pas trop fermée hein, aux élections législatives à venir, même s'ils annoncent des, hein, des quelques conditions. Et puis patatras, la sortie de Pojuro qui est venue dire qu'il ne s'inscrit pas du tout dans une quelconque dynamique d'élection tant que le contentieux électoral de la présidentielle 2020 n'est pas encore soldé. Ça risque de causer un problème au sein de la Diebka.
Je crois que Mgr Pojuro vient de lancer une dynamite au sein de la dynamique.
Une dynamite
oui.
Au sein de la dynamique.
Dynamique, oui. Mm-hmm. Donc c'est ça. Je crois que il faut, ce que Mgr Pojuro vient de faire, je crois qu'il a enterré la dynamique Mgr Pojuro. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Il a enterré cette dynamique-là. Je crois qu'il faudrait que les partis maintenant se départissent effectivement de cette organisation, que chacun aille de son côté pour voir ce qu'il faut faire. Parce que je ne vois pas qu'est-ce qui peut encore les rassembler, qu'est-ce qui peut encore les unir pour aller aux élections. Du moment où le prélat a dit non, que lui n'est pas d'accord d'aller à ces élections. Ouais, donc je crois qu'en utilisant par exemple son nom, soit ils enlèvent la dynamique Pojuro et ils trouvent, et peut-être ils reviennent à la C14 ou bien C.
Ils ne sont pas 14.
Bon, je ne sais pas, le nombre enfin, qu'ils
ils
sont.
Ils vont trouver quand même.
Voilà, si c'est C10, si c'est 8, je crois qu'ils peuvent aller à ça. Mais je crois que ce que le prélat vient de faire, le prélat a effectivement signé la mort de la dynamique Pojuro. Parce que quand j'ai écouté aujourd'hui Mme Adamagbo, elle ne trouvait même pas les mots pour pouvoir décrire ce que le prélat a dit. Donc je crois que soit ils veulent rester effectivement comme les partis politiques et se départir par exemple de Mgr Pojuro et faire le travail qu'ils sont en train de faire en tant que parti politique. Soit ils veulent rester sous sa coupole et ils se disent bon, finalement, ils ne feront plus la politique. On connaît un peu les politiciens SAS. Les politiciens sont comme des marchands. C'est-à-dire que eux, tout ce qu'ils trouvent, ils amènent au marché pour vendre. Même si les produits sont périmés. Le politicien est capable de vous vendre même un produit périmé. Donc je crois qu'il faudrait, c'est aux populations de faire maintenant la part des choses pour savoir où est-ce qu'ils vont et qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que quoi qu'on dise, vous savez, un parti politique qui n'assiste pas aux élections, mais c'est un parti mort. Parce que vous ne pouvez pas rester dehors et crier. Il faut être dedans pour pouvoir crier. On voit au Togo ce qui se passe. Aujourd'hui, ceux qui ne sont pas dedans, on voit ce qui se passe aujourd'hui. La plupart des CELI aujourd'hui, les gens sont en train de crier pour dire non, qu'ils ne sont pas associés, on ne les a pas consultés pour ci et ça. La vitalité d'un parti politique, c'est de participer à un débat démocratique. Et le débat démocratique se fait où? Se fait à l'Assemblée nationale, se fait dans les mairies, se fait effectivement dans les organisations. Je crois qu'il faudrait aujourd'hui que les partis politiques qui sont effectivement dans cette dynamique-là, ils doivent mieux réfléchir. S'ils veulent toujours rester sous le parapluie de Mgr Pojuro, donc ils n'ont qu'à laisser de côté la politique.
Didier Assomba, l'actualité au sein de la DMK pose le problème sous deux angles. Alors, d'un côté, quelle est la ligne, hein, quelle est la ligne politique de la DMK aujourd'hui? Deuxième question, qu'en est-il de son leadership? Qui est le vrai leader de la DMK? C'est vrai qu'ici, nous avons la conférence des présidents. C'est eux qui ont rencontré la presse. C'est eux qui ont demandé la messe hier. Mais à l'extérieur, il y a Mgr Pojuro qui a toujours sa langue. Et il y a aussi M. Agbemo Kodjo, hein, dont la dynamique prétend que c'est lui qui a remporté les élections présidentielles de 2020. Alors, de ces trois entités, qui est-ce que toi tu penses que c'est lui qui a le vrai leadership au sein de la dynamique?
Je pense que la dynamique Mgr Pojuro est en train de connaître une période décisive pour sa survie ou pour sa dislocation. Depuis 2020, je crois que les membres, enfin les responsables de partis politiques qui se sont rassemblés au sein de ce regroupement autour de Mgr Pojuro ont essayé de s'accommoder, de tenir compte d'un certain nombre d'exigences du prélat et de pouvoir tenir compte des directives du prélat dans la marche politique même de cette organisation. Je crois que même le candidat que l'organisation, que la dynamique avait présenté à l'élection présidentielle de 2020 a été lui aussi, comme la plupart l'ont vu ou l'ont dit, prisonnier en quelque sorte du prélat qui était intransigeant et inflexible sur un certain nombre de sujets et qui a fait qu'aujourd'hui, on ne va pas refaire l'histoire de l'élection présidentielle de 2020. Mais actuellement, on est dans une période où le Togo est dans une année électorale. Il faut véritablement se positionner, décider, travailler pour situer l'opinion sur ce que va faire l'organisation ou pas. Et donc, je pense que justement, en personne avisée, je crois que c'est ce que la conférence des présidents est en train de faire ou a déjà fait en multipliant les réunions qui a permis justement de rencontrer la presse de vendredi dernier et de donner une ligne claire tendant à dire que cette organisation devrait participer aux prochaines élections législatives, même si pour le moment ils mettent encore en berne les élections régionales. Mais la sortie de Mgr Poduro a donné, on va dire, un coup de grâce pratiquement à la dynamique qui, si elle ne participe pas aux élections, son existence même ne sera plus justifiée et ne n'apportera plus rien dans le landerneau politique. Et donc, je crois que ce faisant, Mgr Poduro est en train de détruire la DMK et cette organisation risque de ne plus exister dans les semaines à venir. Parce que les erreurs qu'on multiplie sur les landerneaux politiques, les gens l'ont déjà fait en boycottant les élections législatives de 2002. On a vu ce qui était arrivé.
Oui.
Tout proche de chez nous, ici, en 2018 également, les gens avaient également pris le plaisir de boycotter les élections législatives en estimant que la CEDEAO aurait pu empêcher les autorités togolaises d'organiser ces élections-là. On voit justement ce qu'a été la suite et c'est une erreur monumentale reconnue par tous les acteurs. Et aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait encore une entité politique qui va se permettre, qui va se donner le luxe de boycotter encore les élections législatives. À chaque fois que vous boycottez les élections, vous faites exclure des forats de discussion. Et on voit justement que ni la DMK et d'autres entités ne sont pas aujourd'hui membres de la CENI parce que certains nombres d'institutions sont recomposées ou sont renouvelées à partir de la présence présence de ces partis ou entités à l'Assemblée nationale. Si vous n'y êtes pas, vous n'avez pas votre voix au chapitre, vous allez vous contenter des communiqués de presse et des conférences de presse, mais ça ne règle pas fondamentalement
la vie du pays. Ben
justement, le pays va continuer à fonctionner et je crois que...
On va terminer la première partie avec Harry Miaou.
Oui, bon, moi je voudrais dire que l'adage qui dit « les conséquences corrigent mieux que les conseils » ça affiche déjà et tout le monde le sent au Togo. Vous voyez que même les dernières sorties de l'ANC, vous sentez que l'ANC veut aller à ces deux élections.
En fait, l'ANC a dit qu'elle ne boycotterait plus.
Oui, c'est la leçon tirée de la chose. Donc, je crois qu'au niveau de la DMK, effectivement, comme nous l'avons titré, les gens salivent. Mais Poduro veut couper totalement l'appétit des gens. Et quoi qu'il arrive, les gens vont savoir quand même prendre leurs responsabilités. Vous verrez que quelqu'un a
ce plateau... on gomme le nom, Poduro, et puis les gens vont aux élections.
À ce plateau, quelqu'un dit
la dynamique, et les gens vont aux élections.
Poduro a lancé...
Mais attention, Didier, des gens te diront que le principal moteur de mobilisation, c'est justement le nom Poduro.
Oui, mais je
si
voudrais...
on enlevait le nom Poduro de la DMK...
À partir du moment
peut-être
où...
Peut-être ce serait une moto amortie qu'on irait échanger.
Mais de toute façon, il faut que les gens aillent aux élections pour se mesurer et on saura quel est leur poids politique. Et tous les partis politiques sont créés pour participer à la conquête et à l'exercice de pouvoir. Mgr Poduro ou pas, la CDPA, l'UNI, le MPDD et tous les autres qui composent la dynamique restent des partis politiques.
Didier, donc, voilà.
Nous verrons bien, la réaction que la conférence des présidents de la DMK produira suite à cette dernière sortie en date de Mgr Poduro.
Donc vous m'avez coupé la parole comme ça. J'avais la parole quand vous avez, toi et Didier, avez terminé tout.
De toute façon,
je disais que la réaction, elle sera claire et nette. Les gens vont travailler à enlever ce nom, se débarrasser de ce nom et aller droit au but, aller à ce qui concerne toutes les formations politiques. On ne crée pas un parti politique pour rester hors des affaires. Les gens sont restés hors et ont tiré les leçons et ils ne vont pas accepter que Poduro, à 93 ans, vienne bouleverser toutes les envies qu'ils ont
pour travailler en tant que parti politique. Donc, on verra dans quelques heures. Et la raison, ce serait de se débarrasser de ce prélat et
merci.
Puis évoluer comme
peut-être
politique.
Peut-être que d'ici quelques temps, depuis son exil, le sieur Agboyomé Kodjo lui-même se ferait entendre dans ce débat. Et là, on aura les trois positions, celle de la conférence des présidents de la DMK, celle de Mgr Kodjo et celle du président autoproclamé Agboyomé Kodjo. Et les débats nous seront davantage riches. Nous allons juste terminer la première partie en évoquant les dernières visites le week-end dernier du président de la Banque mondiale, David Malpass, de même que la secrétaire d'État française, Chrysoula Zakouroupoulou, qui ont eu à échanger avec les premiers décideurs du Togo, mais également qui ont mené des activités dont parlent les journaux aujourd'hui. Nouvelle Opinion, Liberté, Méga Info, Le Correcteur et bien d'autres. Togo Matin également, vous découvrirez dans leur colonne les comptes rendus des activités de ces personnalités. Il est midi, passé deux minutes, nous marquons une pause. Pendant ce temps, vous préparez avec le 22, 21, 33, 74 ou le 91, 36, 63, 75 pour réagir sur tous les sujets M, auto, électrique. Ou l'actualité telle que nous l'avons commentée. 93.5. Eh bien, le 22, 21, 33, 74, le 91, 36, 63, 75, pour recueillir vos commentaires et vos questions, nous vous prions juste de vous en tenir au sujet débattu, sinon pour le reste, liberté de temps total. Premier auditeur déjà en ligne, bonjour.
Bonjour, Seb.
Oui.
Monsieur Gadou.
Monsieur Gadou, nous vous écoutons.
Moi, je suis électrique. Hein. Qu'est-ce que tu attends?
Vous faites quoi?
Je suis électrique.
Ah, vous-même, vous êtes électrique?
Depuis,
attention
demande à Madame Deborah, elle va vous le dire.
Attention à l'électrocution autour de vous.
C'est une belle moto quand même.
Ok.
Bon, revenons à nos moutons. Mm-hmm. Moi, je voudrais que mon c'est-à-dire, deuxième cas, on doit dire tout ça. Ça, c'est pour les élections présidentielles. Maintenant, il faut que chacun aille de son côté pour voir ce que ça va donner. Merci, bonne journée.
Je vous en prie. Enfin, la décision appartient à ceux qui ont trouvé le temps de se retrouver au sein d'une dynamique. C'est à eux d'en tirer les leçons, les conséquences. Le suivant en ligne, bonjour.
Bonjour, mon directeur.
Papa Sibiti.
Bonjour. Si je dis Armia, on va dire non. Bonjour, mon fils Jakuti.
Bonjour, papa Sibiti.
Bonjour, monsieur Armia et les autres.
Oui. Ah, bonjour, papa. Bonjour.
Nous ne sommes pas les autres, papa.
Ça fait longtemps.
Ah, c'est vos lignes. Je n'arrive pas à voir les lignes.
Voilà.
Le Kotokoli dit, oh, Dazamba, ton Wando.
Ah, ton.
Va écouter.
Voilà, nous vous écoutons.
Il va vous expliquer.
Okay.
Mais, moi, je suis fils de politicien éminent, progressiste. Mais, quand on crée un parti, c'est pour les élections.
Mm-hmm.
Mon fils a dit, il a lancé une dynamique comme quelqu'un, un ministre, dit les missiles. Le parti là, il faut que j'interpelle la fille de mon patron, le docteur Adjamagbo. Elle n'a qu'à faire attention, la présidente Adjamagbo. Je l'interpelle. Elle n'a qu'à faire attention que l'exemple des autres, que le comportement de leur serve d'exemple. Pourquoi ne pas aller? L'autre qui dit de ne pas aller, attention, le Togo là, nous voulons la paix. Est-ce qu'aujourd'hui, après 3 ans, on peut leur remettre le pouvoir? Je vous pose la question.
Non, non, c'est vous pas à nous, papa Sibiti. La question nous dépasse, va à qui de droit?
Vraiment, qu'ils aillent aux élections là. Tiens, merci.
Je vous en prie, papa Sibiti. Troisième auditeur en ligne, bonjour. Allô? Je rappelle que nous avons parlé de la société M-Moto, les motos électriques. On a parlé
de
la grâce présidentielle et autres. Oui, bonjour l'ami.
Bonjour.
Oui, c'est monsieur?
C'est monsieur Pierrot.
Monsieur Pierrot.
Oui.
Bien, nous écoutons.
Oui, je voulais rebondir sur les moteurs électriques.
Oui.
Oui, il y a quelque chose qui est un peu flou dedans. Mmh. Et je suis allé me renseigner. Bon, il y a un compte à rendre chaque jour, 1200. Il faut que la dame nous éclaircisse ce point.
Mmh.
Oui, merci.
Je vous en prie. Alors, sur les motos électriques, est-ce qu'il y a quelque chose auquel les gens sont tenus quotidiennement? La question sera posée à Déborah dans un moment. L'auditeur suivant, bonjour.
Monsieur Sass, bonjour.
Oui.
Je voudrais rebondir un peu sur cette grâce présidentielle à l'endroit des prisonniers.
Oui.
Et ça prouve qu'on ne peut pas envoyer des gens en prison pour rien du tout. Et il faut éviter d'envoyer des gens en prison. Nous sommes des Togolais, on peut se demander, pardon. L'autre fois, il y a quelqu'un qui m'a... Franchement, il a dit quelque chose. Est-ce qu'on ne peut pas se demander pardon entre nous les Togolais? Quand on vous demande pardon, et puis je demande au chef de l'État d'annuler cette condamnation, cette justice, cette condamnation à l'endroit de Ferdinand Haïté. Pourquoi ne dites pas après que c'est une grâce présidentielle? Pardon, il faut qu'on évite d'envoyer des gens en prison pour...
Mais Sylvain Agbayi, dans le monde entier, de tout temps, il y a toujours eu des prisons pour les gens qui causent des dommages autour d'eux.
Quand quelqu'un est censé d'aller en prison, il faut qu'on l'envoie en prison.
Oui, alors?
Il faut qu'on l'envoie toute personne en prison. Il y a des gens qui ont commis des crimes économiques, ils sont là, ils sont peinards, ils sont dans le pays. Quelqu'un, je ne sais pas... Je dis qu'il faut éviter, pour rien du tout, envoyer des gens en prison et puis après dire que...
Que la justice soit vraiment juste et que ce soit vraiment les criminels qui soient condamnés à aller en prison.
Oui,
que les innocents soient laissés en liberté.
En liberté.
Merci beaucoup, Sylvain Agbayi. L'auditeur suivant, bonjour.
Allô, bonjour, monsieur Sass.
Bonjour.
C'est monsieur Abioke.
Monsieur Abioke.
Oui.
Ok, nous vous écoutons.
Je salue le plateau.
Merci.
Monsieur Abioke, monsieur Sasseur, permettez-moi, je vais saluer tous les journalistes qui viennent au cours de la fête de Canal FM.
Mm-hmm.
Et tout cela qui me suffit, qui m'a pu. Et je voudrais remercier également la radio du CFM et Pyramide de Saint-Denis.
Monsieur Abioke, le temps est compté. Allons directement à votre sujet.
Je comprends.
Oui.
Je voudrais poser une seule question à toutes les autorités qui sont autour du chef de l'État.
Oui.
De la présidence à la primature, à l'Assemblée nationale et dans différents ministères.
Mm-hmm.
La seule question que je voulais poser est, si on le demande aujourd'hui, de donner l'année, le mois, le jour, la date pour le chef de l'État, son excellent M. Faure, a eu la première fois la grâce, la miséricorde, la compassion de Dieu qu'il va devenir chef d'État comme son papa. Est-ce qu'il peut me répondre? Il peut me donner la question. Le chef de l'État lui-même en personne, il accepte.
Monsieur Abioke, allons directement au but.
Pardon?
Vous voulez dire quoi? Allons directement, préciser directement vos intentions.
Ce que je voudrais dire est que lorsque le chef de l'État m'a raconté sur les panneaux de Palais Condé, sur le 6 avril 2019, parmi des milliers de personnes, lui-même, il m'a mis avec ses propres yeux et il a envoyé son garde-corps devenir monitorateur pour l'amener. Et son garde-corps est venu prendre mon numéro pour l'amener. Et on m'a dit comment m'appeler.
Oui.
Depuis ce jour aujourd'hui, on ne m'appelle pas. Mais quand j'ai fait le chef de l'État sur voiture ratio, j'ai le retour que le chef de l'État m'a financé suffisamment. Que ça pourrait aider ma famille et moi, nous allons vivre ça. Dans ce sujet, je dirais tout le sujet de notre pays. Faites-moi appeler quelqu'un qui n'a pas su gérer les moyens. Et ils disent encore que lorsque le chef de l'État envoie, moi je pense qu'ils sont bêtes, ils ne rendent pas compte au chef de l'État, ils ne font pas le rapport au chef de l'État. Là, ça me fait très mal, M. Sass.
Donc, encore, M. Abioke, vous voulez dire qu'il
y a un ministre, un colonel, un député, lorsque le chef de l'État m'a raconté sur le plan de Paris, comme ce monsieur à ville. Et il a envoyé un ministre vers moi. Je veux que ce ministre n'a qu'à m'appeler. Ou bien ce colonel, bien ce député n'a qu'à m'appeler, c'est moi, il t'a appelé ce jour.
En somme, M. Abioke veut dire que jusqu'à présent, il n'a pas encore eu de retour du président qui serait son ami personnel. Merci, M. Abioké. L'auditeur suivant, j'espère qu'on va revenir au sujet de, que nous connaissons, sur lequel nous pouvons nous prononcer. Bonjour.
Bonjour. Oui. Je reviens, pardon. Je vais interpeller, je voudrais que Mme Adjamagbo ressemble à son papa, le docteur éminent Adjamagbo. Si vous le voyez à Bassa, qu'elle fasse tout pour que les choses marquent dans la DEMCA, qu'ils aillent aux élections. Merci.
Je vous en prie. Papa Sibiti, Mme Adjamagbo, savent où se rencontrer pour mieux parler. Le suivant, bonjour.
Oui, bonjour.
Oui.
Bonjour, M. Sass.
Oui, c'est monsieur.
C'est monsieur Mizam.
Mizam.
Oui.
Ah, nous écoutons.
Monsieur Sass, s'il vous plaît, quelque chose m'est arrivé ce matin-là au niveau de feu rouge, service des passeports, là, à côté de l'ONATO, là.
Oui.
Il y a les forces de sécurité qui sont là-bas. Bon, j'étais de passage, je sortais de GTA pour aller vers Atikoumé.
Oui.
J'arrive là-bas. Bon, j'ai constaté que le feu rouge ne marchait pas. Mais à ma grande surprise, à l'intersection, les policiers m'arrêtent. Ils disent que j'ai violé le feu rouge.
Uh-huh.
Ils m'ont retiré la clé de la moto. Je suis descendu. Je me suis approché d'eux. Je dis que, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Que j'ai violé le feu rouge? C'est pas possible.
Bon, ok, c'est des questions qu'on peut résoudre avec en allant à la police. Pour mieux s'expliquer, d'autant Allô. Plus que nous ne sommes pas témoins de la scène. L'auditeur Allô. Suivant, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur Sass.
Oui.
C'est Nassema.
Monsieur Nassema.
Je voudrais dire quelque chose là. Il y a un phénomène, les gros porteurs là.
Non, s'il vous plaît, intervenez sur les sujets que nous avons commentés aujourd'hui.
Ça nous arrange.
Non. Bon, posez des questions sur lesquelles nous pouvons vous répondre, s'il vous plaît.
Comment là les concours là.
Oui.
Oui, moi je dis que des fois, c'est que les autorités m'excusent, hein. Peut-être c'est l'escroquerie au sommet de l'État. On organise un concours et on ne le programme pas.
Mm-hmm.
Est-ce qu'on peut comprendre ça dans un pays normal? Ça veut dire que l'État anarque la population, la jeunesse.
Bon, nous retenons que l'attente est forte. Qu'on proclame les résultats des concours passés depuis déjà un bon bout de temps. Merci l'ami. Je rappelle juste que la courtoisie est de rigueur au Club La Presse, aussi bien nous au studio que les auditeurs qui interviennent. Dernier auditeur aujourd'hui, bonjour.
Bonjour.
Oui.
C'est Monsieur Alain.
Monsieur Alain.
Oui.
Bien, nous vous écoutons.
J'aimerais poser une question à Jacques Jacouti.
Ok, il vous écoute.
Oui. Comme on a fait une grâce présidentielle là, et Ferdinand a été condamné. Quand Ferdinand a été jugé et condamné, est-ce qu'il peut bénéficier de cette grâce?
Ok. Est-ce que Ferdinand a été et peut-être Isidore Kouanou pourrait bénéficier ou bien aurait pu ou bien aurait dû bénéficier de la grâce présidentielle? Eh bien, Jacques, tu réponds à notre ami?
Bon, vous savez, c'est un sujet sur lequel nous sommes en train de discuter, négocier. Je ne voudrais pas donner la quintessence de cette discussion sur le plateau du moment où on n'a pas encore fini.
Mm-hmm.
Et j'ose croire que par la grâce de Dieu, avec le concours de Harim Yao et les autres organisations de la presse au Togo, nous trouverons une solution vraiment à ce problème pour que nos deux confrères puissent regagner la terre de nos aïeux. Je crois qu'il n'est pas bon que nos compatriotes puissent rester à l'étranger. Une fois encore, je voudrais demander de la patience à nos compatriotes qui aiment Ferdinand. Nous tous, nous l'aimons. Et aujourd'hui, quand vous voyez ses enfants et son épouse, que ce soit également Kouanou, ont besoin effectivement de des parents.
Donc, je crois que les contacts, voilà, les démarches sont en cours.
Oui,
mais juste pour notre propre lanterne, notre propre gouverne, la grâce présidentielle n'intervient que pour des gens définitivement condamnés. Or, Ferdinand et Isidore, pour ce qui les concerne, ils ont été condamnés en première instance. Leurs avocats ont fait appel. Donc, attendons la Suisse. Lorsque nous irons à la cour d'appel, peut-être même jusqu'à la cour suprême, à moins que les démarches dont a parlé Jacques Jacouti, entre-temps, ne nous apportent une semaine plutôt des réponses beaucoup plus heureuses.
Madame Déborah Djokui, rebonjour.
Oui.
Alors, une question vous a été adressée. Il semble que ceux qui ont acquis vos nouvelles motos devraient s'acquitter de quelque chose à payer quotidiennement.
Bon, comme je l'avais dit, le paiement que le client effectue, ça couvre la rechange de la batterie. C'est-à-dire, c'est pour la propre consommation.
Dans l'opération
Zemchoco. Oui. Mm-hmm. Dans l'opération Zemchoco, le paiement que vous effectuez, ça, c'est pour votre propre consommation. C'est-à-dire, quand je suis propriétaire de la moto, je dois échanger les batteries pour pouvoir utiliser la moto. C'est un frais qui couvre votre propre consommation, parce que ici, nous couvrons aussi la maintenance de la moto, l'entretien de la moto. Au cas où votre moto tombe en panne, c'est la société qui change même jusqu'à les pièces de la moto. Chaque mois, on vous programme pour des maintenances mensuelles. Quand la moto est tombée en panne, quand il y a une pièce à rechanger, c'est à la charge de l'entreprise. Donc, le paiement que le client...
Là, c'est l'un de vos services traditionnels que vous offrez à tous ceux qui détiennent vos motos.
Ceux qui participent à l'offre Zemchoco. Pour les clients qui participent à l'offre Zemchoco, la maintenance, l'entretien, la réparation des pièces sont à la charge de l'entreprise.
Ok. Maintenant, de quoi les gens doivent-ils s'acquitter quotidiennement?
Ça, c'est celui qui veut payer la moto pour usage personnel. Ça, je veux payer la moto pour usage personnel. Là, je dois payer journalièrement, ou bien par semaine, ou bien par mois. Ça, c'est ça diffère de l'offre Zemchoco. Si je veux payer la moto et pour usage personnel, c'est ça diffère de l'offre Zemchoco qui consiste à échanger une moto. Mais le client qui vient payer la moto ne change pas. Il vient parce qu'il n'a pas les moyens pour payer cash la moto. Il peut payer soit par jour, soit par semaine ou par mois.
Donc, vous répétez, vous insistez sur le fait que quand on vient pour l'opération Zemchoco, eh bien, la moto, elle est gratuite et la réparation, l'entretien, tout ça là, sont également à la charge de la société pour l'opération Zemchoco. Alors, c'est les particuliers
qui paient par jour,
Selon l'engagement
qu'ils auront pris avec nous.
J'espère que, comme c'est dit en français facile, la compréhension le sera autant dans tous les esprits. Mais je reviens à vous dans un moment pour votre mot de fin. Le temps qu'on fasse un tour de table, une minute chacun, Didier Assogba, peut-être une précision ou bien une information ou bien une gratification à quelqu'un sur un sujet. Une minute en tout cas.
Non, qu'est-ce qu'il faut dire? Rien d'autre à part ce qu'on a dit sur les concours, par exemple. Il faut justement que les autorités travaillent à ce que l'attente des citoyens soit rapidement comblée et pour que les Togolais, les jeunes qui sont en attente puissent être situés justement sur leur sort. Sur monsieur, il y a un monsieur qui a appelé, monsieur Abioke.
Oui.
qui s'étonne de ce que l'entourage du chef de l'État ne le contacte pas. Il faut justement que également nos autorités travaillent. Je pense que ces choses, en fait, concourent à renforcer la crédibilité de nos dirigeants sur ce qu'ils font et sur la parole qu'ils donnent. Je pense que ceux qui doivent voir M. Abioke travaillent rapidement à le voir, pour que la crédibilité du chef de l'État qui donne une parole à un citoyen de l'aider sur tel ou tel sujet puisse justement être gardée. Sinon, c'est le citoyen qui verra, je ne sais pas l'image que ça va renvoyer au citoyen de ce que le chef de l'État lui a promis quelque chose, que l'entourage du chef de l'État a empêché et que ce que a promis le chef puisse arriver à destination.
Donc, alors, pour le reste, cas Abioke, pour faire simple, pour le cas Abioke, M. Abioke dit que des gens dans l'entourage du chef de l'État l'empêchent de voir le président. Ça, c'est d'un. De deux, que le président lui aurait envoyé des signaux ou des messages que quelqu'un ou bien des gens dans l'entourage du chef de l'État bloqueraient. Ouais. Je parle au conditionnel.
Oui, on
est... J'essaie d'interpréter un peu la pensée de M. Abioke.
S'il a choisi de le dire sur une antenne comme ça et dans une émission de grande écoute comme le Club de la Presse...
C'est pour être écouté.
C'est pour être écouté et par le chef de l'État.
Je présume qu'il a été écouté. Jacques Jacouti.
Non, je crois que, si vous permettez ça, c'est quand vous parlez d'un mot,
Hier, il y avait un compatriote qui a eu un problème aux alentours de 2h du matin. Mm-hmm. Je voudrais sincèrement... Vous savez, il y a certains ministres au Togo qu'il faut quand même féliciter. Lorsque vous les appelez, à n'importe quelle heure, ils décrochent.
S'ils ne donnent pas, puisque c'est à 2h quand même.
Oui, moi-même, j'étais étonné. Entre-temps, j'hésitais pour appeler, ne pas appeler. Mais j'ai dû appeler. Et il a décroché. Ouais. Ça, sincèrement, je lui donne un carton vert à ce ministre. Je ne veux pas donner son nom.
Il se connaît lui-même.
Il se connaît lui-même. Mm-hmm. Sincèrement, merci d'avoir sauvé ce compatriote-là de cette situation. Revenir par rapport à ce que Didier disait sur Abioké, ça, je crois qu'il faudrait au moins que ceux qui sont à l'écoute. Fort Gnassingbé, c'est notre président.
À nous tous.
À nous tous. Que ses collaborateurs, s'il vous plaît. Les collaborateurs qui sont à l'écoute de Canal FM actuellement, s'il vous plaît. Même si le président de la République ne peut pas intervenir dans cette histoire, vous qui avez les moyens, trouvez quelque chose à ce monsieur pour qu'il puisse se taire. Vous avez les moyens. Combien... Je connais un peu le monsieur.
C'est un non-voyant.
C'est un non-voyant. Je vous dis ça. Tous les jours, il est chez mon père à la maison. À Côte d'Ivoire, Copé là-bas. Tous les mardis, là, avec le papa là-bas. Donc, je crois que... Et le papa fait ce qu'il peut. Moi, je crois qu'il faudrait que les gens... à l'entour de Fort Gnassingbé, fasse quelque chose. Combien vous pouvez donner à ce monsieur? 500 000 ou 1 million qui, et puis vous allez laisser le monsieur là traîner le nom du chef de l'État sur les antennes comme ça tous les jours. Un Canal FM qui est écouté un peu partout dans le monde et qu'on dise que le chef de l'État a donné des instructions pour qu'on aide un aveugle et qu'on n'arrive pas à le satisfaire. Moi, ça me fait honte. Ça, moi, si j'avais les moyens, j'allais donner à ce monsieur pour qu'il puisse se taire. Mais je n'en ai pas. Mais le peu que j'ai, je le fais. Mais il faudrait que ceux qui ont les moyens puissent vraiment aider ce monsieur-là. Parce que je sais comment tu as peiné tout le temps à le recevoir. Il m'a toujours parlé de toi. Donc je crois qu'il faudrait que... Entre-temps, il a fait même une grève de la faim. On est allé, les services de la FIP sont allés le prendre là-bas. Ils l'ont amené là-bas. Ils ont dit qu'ils vont faire le compte-rendu au chef de l'État. Rien. Et après, ils verront. Mais rien n'a été fait. Il continue toujours pas à crier. Donc, je crois à un moment donné, quand même.
Que le nom du président de la République soit associé à cette affaire sur des années, on devrait quand même trouver une solution bien définitive. Arim Yahoujaniaou.
Non, bon, moi, je voulais revenir sur la question du concours. Il faut dire que nous avons longuement parlé ici. Il faut que le résultat des concours, les résultats des concours qui sont encore là à traîner, qu'on puisse connaître ces résultats, parce que ça va résoudre certains problèmes, comme le problème de Abioké. Il y a beaucoup de jeunes qui ont passé les concours et durant les 2 ou les 3 ans où ça traîne, sont dans la situation où Abioké est. Donc ça fait comme si, quelque part, les gens veulent traîner la mendicité des autres. Il faut donner ces résultats pour que les jeunes-là, qui ont eu des diplômes, et quelqu'un a dit ici qu'ils sont en train de prendre de l'âge, qu'ils puissent bénéficier effectivement de ces diplômes-là. Le faire, ça va plus dans l'intérêt de l'État que des populations. J'en ai terminé.
Merci, madame Déborah Djokui. Le mot de conclusion sur l'opération Zen Choco et puis la société M-Auto dans son ensemble.
Ok, le mot de fin sur l'opération Zen Choco. Je résume, Zem Choco vous permet d'échanger votre moto thermique qui est épuisée, endommagée, pour avoir une moto commando. Et c'est une offre qui couvre plus les conducteurs de taxi-moto, puisque c'est eux qui utilisent plus les motos. Donc, pour l'offre, vous pouvez aller dans nos différentes agences. L'offre est disponible là-bas. Ou soit vous contacter notre numéro vert, qui est le 88-84 ou le 92-02-45-78 ou encore le 90-00-27-28.
Merci. Je rappelle que la moto électrique, en principe, ne fait pas de bruit. Donc, si vous conduisez cette moto, la faites attention. Sinon, vous risquez de filer et de ne pas vous en rendre compte. Or, nous veillons à ce que nous soyons tous en bonne santé, et nous au studio, et vous les auditeurs. Et ainsi, nous allons nous retrouver demain mardi à 11h, si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.